Ce 1er mars, c'est jour de fête pour notre diocèse de Bayonne. Nous sommes avec l'abbé Philippe Beitia, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est la Saint-Léon, évêque et martyr, solennité dans la ville de Bayonne et mémoire facultative dans le reste du diocèse. Qui était Saint-Léon ?
Bon, de Saint-Léon, on ne sait pas grand-chose. Hein. On peut penser qu'à une époque, malgré tout troublée, le 9e siècle, bon, quand vous lisez donc... Quand on avait des rois du chanoine Narbaitz, on voit un peu la difficulté. Donc une époque troublée, on peut penser qu'il y avait quelque chose en fait de vie d'église avant son arrivée au 9e siècle, peut-être à partir du 6e siècle, au moment où Bayonne devient une civitas, obtient donc un rang plus important.
À l'époque, c'est la Pourdoum, le nom de Bayonne.
La Pourdoum est le nom de Bayonne, effectivement. Donc, on peut penser cela, beaucoup d'historiens le pensent, mais on n'en a aucun témoignage. De Saint-Léon, donc, voilà, Saint Grégoire le Grand dit pour le culte des martyrs, « Nomen dies locus », un nom, un jour, un lieu. Donc, le nom, nous l'avons, Saint-Léon.
En latin, c'est comment, Saint-Léon ?
Sanctus Léo. Léo Léonis, troisième déclinaison. Donc, un nom, nous l'avons, Saint-Léon, un dies, le jour de son dies natalis, de son martyr, nous l'avons, le 1er mars, et un locus, nous l'avons, puisque il y a ses restes, ses reliques, ont été conservés longtemps, donc dans la ville de Bayonne. Donc, bien entendu, cela atteste l'historicité de ce personnage. On peut penser que, voilà, ça a été comme Saint-Amand, un évêque pèlerin qui est venu évangéliser, réévangéliser la région de Bayonne.
L'évêque de Bayonne, le premier évêque de Bayonne, était un évêque normand.
On ne sait pas trop s'il était normand. On le dit. Le fait est qu'en Normandie, on ne connaît pas Saint-Léon jusqu'au XVIIe siècle, où on se rend compte qu'on célèbre un évêque normand à Bayonne. Et donc, ils vont le récupérer dans leur calendrier et ils le célèbrent toujours. Mais était-il normand ? Ça, c'est encore... c'est une tradition.
La légende nous dit qu'il était de 40 ans en Normandie et qu'il serait né vers 856. Mais tout ça, c'est des hypothèses.
Tout ça, c'est des hypothèses. On est sûr que c'est au 9e siècle. Donc on peut calculer un peu, dans la mesure où on fait l'hypothèse qu'il venait de Normandie, mais vous avez d'autres hypothèses. Vous avez une hypothèse disant qu'il vient du Guipuscoa, en fait il y a trois ou quatre hypothèses. Vous avez tout ça dans le livre du chanoine du Barat sur le missel de Bayonne du début du XXe siècle. Tout y est. Mais bon, on n'a pas vraiment de certitude.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que depuis un certain nombre de siècles, on célèbre le 1er mars la fête de Saint-Léon à Bayonne.
Voilà. On célèbre la fête de Saint-Léon à Bayonne. Un temps, il y avait une procession printanière à partir de... vers la fontaine Saint-Léon, qui se trouve près de l'aviron bayonnais. Bon. Voilà. Donc, et bien sûr... bien sûr, la grand-messe solennelle à la cathédrale, avec tant sous l'Ancien Régime qu'actuellement, voilà, les corps constitués.
Alors Saint-Léon, parlons quand même un peu de ce qu'il a fait et comment il est mort, surtout, c'était un martyr.
On pense que, alors bon, si on lit les légendes, voilà, il aurait été mis à mort par des païens parce que, bon, il avait brisé la statue du dieu Mars.
Des païens vikings.
Alors bon, voilà, c'est que tout ça, ça ne peut pas coller. Effectivement, les vikings vont ruiner. Bon, voilà, ils viennent en bateau le long des côtes et vont ruiner et piller toutes ces régions, dont la nôtre. Et donc, on pense que ces vikings qui sont des païens sont venus jusqu'à Bayonne et que sûrement donc, bien voilà, ils ont mis à mort l'évêque pèlerin donc qui était Saint-Léon.
Qu'est-ce qu'il a fait à Bayonne-Saint-Léon?
On pense qu'il a évangélisé ou réévangélisé dans une époque troublée, donc cette région-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir, mais ce n'est pas l'unique récit, si vous lisez par exemple l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, donc un évêque de cette époque, on lit à divers moments que voilà, de Rome, des papes ont envoyé des évêques missionnaires évangéliser telle et telle région de la Gaule. Donc ça veut dire qu'on a eu la préoccupation toujours d'évangéliser ou de réévangéliser des régions qui étaient païennes ou peut-être pas suffisamment ancrées dans la foi chrétienne.
Quand vous dites réévangéliser Bayonne, ça veut dire qu'il y avait déjà eu une première phase d'évangélisation avec Saint-Amand, par exemple?
Alors, Saint-Amand, effectivement, là, on a peut-être davantage de traces, parce qu'on a des écrits. Bon, on sait que donc, il est venu évangéliser cette région. Enfin, ça a été un évêque pèlerin, il a été un peu, si j'ose dire, un tout petit peu partout. Mais il semblerait, d'après ce qu'il dit, que l'évangélisation par Saint-Amand n'ait pas eu une grande réussite.
Saint-Amand, c'est quel siècle?
Ben voilà, c'est dans les années 600, par là. Parce que bon, on a une lettre, une réponse du pape à Saint-Amand, où on voit que Saint-Amand voulait démissionner, enfin, de son rôle d'évêque pour se retirer, pour vivre la vie religieuse.
Saint-Léon, donc, c'est trois siècles après Saint-Amand, en gros, juste avant l'an 1000.
Oui, dans les années 900. Vous avez en Gaule ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, du temps donc de Charlemagne. Donc, il y aura bien sûr un fleurissement de l'Église, de la foi chrétienne. Mais bon, ça va durer peu de temps. Et après, donc, la situation politique, la situation sociale et de ce fait, la situation religieuse, ça va être très compliqué, non seulement chez nous, mais même à Rome. Donc, voilà, c'est une époque troublée.
Abbé Philippe Beitien, Saint-Léon est mort comment? Décapité?
La tradition nous dit qu'il est mort décapité et elle en fait un céphalophore, c'est-à-dire un saint qui, après sa mort, prend sa tête et la porte.
On retrouve toute cette histoire, toute cette légende, sur des peintures à la cathédrale de Bayonne. Oui. Dans une chapelle où on retrouve toute la vie de Saint-Léon dessinée. Quoi.
Oui, vous la trouvez dans la cathédrale de Bayonne, vous la trouvez dans les textes des légendes. Bon, chez du Barat, donc, vous avez la grande légende, la petite légende, vraiment, ce genre de choses. Alors, il faut savoir que, voilà, les anciens n'avaient pas le même sens historique que nous, et que pour eux, l'histoire religieuse avait un but d'édification, et que, bon, ils pouvaient très bien recopier la légende, l'histoire d'un saint, et l'appliquer tout à fait à un autre. Voilà. Et donc, bon, je pense que, bon, voilà, des légendes de saint Céphalophore, bon, on a Saint-Denis de Paris, on en a quelques autres. Donc, voilà, on peut penser que ces fameuses légendes, les legendas, les choses qu'on doit lire, hein, c'est ça qu'il faut dire donc, dans l'office, dans la liturgie, pour exciter la piété, est un peu de ce type. Mais ça nous ramène donc au problème de ce qu'on appelle les légendes hagiographiques. Bon, qui ont suscité quand même pas mal d'études intéressantes.
La fête de Saint-Léon est solennisée à la cathédrale de Bayonne le premier dimanche de mars, même si dans le calendrier liturgique, dans le propre du diocèse, c'est le 1er mars.
Le propre du diocèse, c'est le 1er mars. Mais bien sûr, si le 1er mars tombe en semaine, voilà. Donc, comme on veut marquer cette fête, et à travers cette fête, ben, c'est aussi une prière pour l'église de Bayonne, pour le déploiement de l'église de Bayonne dans la foi au Christ, dans le témoignage du Christ, aussi pour son déploiement, si j'ose dire, physique, en quelque sorte. Donc, bon, et puis pour toutes ses composantes, voilà, le peuple, le clergé, l'évêque. Donc bien sûr, si on veut attirer l'attention sur cela, il faut bien la célébrer un dimanche, fut-il un dimanche de carême. Alors, on a là ce qu'on avait un peu avant le concile, ce qu'on appelait les solennités extérieures, c'est-à-dire que, mettons, pour la fête de l'Épiphanie, ou la fête de Dieu qui tombait l'une le 6 janvier et l'autre un jeudi de semaine, on célébrait la messe de l'Épiphanie le dimanche qui suivait, et la même chose pour la fête de Dieu. Mais là, il y avait une octave. De même pour Jeanne d'Arc, avant le concile, qui était patronne de la France, on l'a célébrée un dimanche de mai. Donc c'est un peu ce même réflexe, si j'ose dire, avec le désir de rassembler la communauté chrétienne pour une prière plus intense pour l'église de Bayonne qui est marquée dans la liturgie.
Saint Léon a laissé des traces à Bayonne, c'est sûr, par son culte, par ses reliques, oui, qui sont toujours à la cathédrale de Bayonne,
voilà,
par la fontaine Saint Léon, comme vous l'avez dit, qui se trouve à côté de l'aviron bayonnais,
oui,
par les églises aussi qui portent le nom de Saint Léon, Saint Léon de Marac à Bayonne et Saint Léon d'Anglette.
Oui, il semblerait que l'église Saint Léon d'Anglette, les pierres soient très anciennes. Voilà, donc on est transporté des pierres d'un sanctuaire consacré à Saint-Léon à Anglette même.
Pour terminer, Abbé Philippe Beita, peut-être pouvez-vous nous dire la prière qui est proposée dans le propre du diocèse de Bayonne, donc le calendrier propre du diocèse, pour la fête de Saint-Léon.
Oui, c'est une très belle prière, bon, qui est ancienne, qui doit remonter, je pense, au moins au XVIIIe siècle, si ce n'est avant. Seigneur, tu as appelé nos pères à la lumière de l'Évangile par la prédication de Saint Léon, évêque et martyr. Accorde-nous à son intercession de croître en sainteté et de connaître toujours mieux ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beita, et bonne fête de Saint Léon à toutes et à tous.
Au revoir.
Saint Léon, pasteur plein de zèle, parvint aux rives de l'Adour. Deux peuples fiers par leur querelle ensanglantaient notre labour. Il sut gagner le cœur rebelle, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Ô Léon, patron de Bayonne, du sein de l'île, mortalité, entends monter jusqu'à ton trône le cri d'amour de la cité, le cri d'amour.